Bonjour.
J'aurais voulu connaître un peu votre enfance ou votre scolarité. Vous pouvez m'en parler un tout petit peu? Enfin, voir un peu beaucoup même.
Mon enfance et ma scolarité.
Oui.
Oh. J'ai commencé à aller à l'école communale ou primaire. Dans une école de garçons où j'ai fait mes études traditionnelles, où j'avais toujours devant moi, d'ailleurs, si je me souviens bien, j'avais toujours devant moi un type qui devait s'appeler, James. Il était toujours numéro 1, j'étais toujours numéro 2. Il avait toujours les félicitations, j'avais toujours le prix d'excellence. Et pendant des années, comme ça, il a été premier, moi deuxième, jusqu'à ce que j'aille au collège.
C'était
rue. Alors ça s'appelait. La rue. C'était en haut des escaliers qui montaient sur les collines d'Alger, puisque je suis né là-bas. Ça montait, Alger est bâti sur des collines comme Rome, et ça montait sur des escaliers qui n'en finissaient pas. Donc, il y avait des instituteurs, je ne sais pas comment on disait, des maîtres à l'époque, qui étaient des régionaux, et puis on était bien sages, bien élevés, bien pensants, bien tout, quoi. Tout bien. Sauf qu'un jour, du haut de la fenêtre de l'appartement où on était, c'était en pleine guerre d'Algérie, il faut dire, mes parents m'avaient acheté un pistolet à plomb et j'ai tiré sur. Je m'amusais à viser un panneau de stationnement interdit d'un garage qui était en face de la rue. Et un jour, au moment où je tirais, il y a une Fatma qui passait, qui est montée faire un scandale à maman en disant que je voulais la tuer, alors que moi je visais purement et simplement le stationnement interdit, enfin le rond de stationnement interdit, le sigle de stationnement interdit. Mais bon, c'était dans un climat un peu particulier, donc il y avait une connotation particulière. Quoi d'autre?
Vous pouvez me parler de votre profession?
Ma profession?
En passant par les études supérieures.
Ah, les études supérieures. Alors, quand on a quitté l'Algérie, où j'étais donc dans une école de garçons, après dans un collège de garçons, où il n'y avait que des garçons et des garçons et des garçons, on est arrivé en France. Oui, on est arrivé en France et mes parents m'ont inscrit au premier lycée du 10e arrondissement de Paris, qui était un lycée mixte. Et comme j'avais à l'époque 15 ans, le lycée mixte, ça a un peu perturbé mes études. Je suis rentré en 4e, je crois. Et j'ai fait 3e, 2e et en 1ère, mon père, devant mes résultats brillants, m'a envoyé dans un pensionnat. Un pensionnat où il n'y avait que des garçons. Et où je ne sortais pas, évidemment, le soir. Et puis j'ai fait donc là-dedans seconde, terminale, philo à l'époque. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Oui, ensuite, toujours mon père, il a décidé de m'envoyer en école préparatoire. Donc j'ai requitté un établissement de garçons, pour me retrouver abandonné à moi-même en province, avec une chambre d'étudiant, livré à moi-même la première heure du lundi à la dernière heure de vendredi. Donc j'ai passé mon temps donc de la plus totale abstinence à la plus totale liberté, de la plus totale intransigeance à la plus totale indépendance, enfin bref. Et puis j'ai donc fait mes études dans cette école de commerce. Au début c'était en CTU. Et la cité universitaire, c'était un peu le folklore parce que c'était 66, 67, 68. Donc c'était le folklore, on écoutait de la musique qui venait des États-Unis, on fumait, on buvait, on sortait, on faisait pas grand-chose. Bon, j'ai appris à jouer aux échecs, j'ai appris à jouer au bridge, j'ai appris à jouer au billard. Qu'est-ce que j'ai fait après? Après, oui, j'ai poursuivi mes études, ou plus exactement, elles m'ont poursuivi, et j'ai passé mon diplôme en 72, donc 4 ans plus tard. Et puis, j'ai, vas-y.
Il est rond.
Oui, mais là, mes études qui me poursuivent, c'était moitié Rouen, moitié Le Havre. Et puis, après, avec ce diplôme, j'ai cherché un job. Et puis, entre-temps, j'avais fait des tas de stages. En fin de seconde, fin de première, fin de terminale, etc. Je faisais des stages au mois d'août ou au mois de juillet pour gagner un peu de sous. Je me souviens, je t'ai déjà dit, mon premier salaire, j'avais gagné à classer les archives dans une compagnie d'assurance. J'avais gagné 600 francs, ce qui à l'époque s'appelait 60 000 francs. Et j'étais rentré chez moi en mettant ma main dans ma poche sur les billets, parce qu'il payait en liquide, sur les billets, et je m'étais explosé en m'achetant un... Comment on appelle ça? Un esquimau, une glace, puisque c'était au mois d'août. Mais ça, c'était la richesse ce jour-là. Je m'étais acheté un esquimau parce que j'étais indépendant, libre et riche. Oui, alors donc après j'ai postulé. Après je me suis marié entre temps je me suis marié. On est parti au service militaire. Je suis rentré à la coopération. Là aussi on était très très occupé puisque je donnais 8 heures de cours par semaine. On était au soleil, on était en Algérie, on a visité le désert, on s'est baladé, on avait la vie un peu insouciante des gens qui... La vie insouciante des gens qui n'ont pas besoin de courir après l'argent d'une part, après la santé, après le plaisir, après le soleil, c'était sympa, on a fait toute l'Algérie, tous les déserts, on a fait le Maroc, la Tunisie, on s'est un peu éclaté. Puis ça s'est un peu mal terminé, puisque c'était bien après l'indépendance, mais ça s'est quand même mal terminé. On est rentré un peu rapidement en France. J'étais, comme d'habitude, toujours aussi tendu, parce que les événements faisaient que... Oui, j'étais un peu tendu. Donc je suis rentré un mois et demi plus tôt que la fin de mon service militaire. On est rentré, et là j'ai postulé... J'ai postulé à des tas de jobs, de commerciaux, parce que je pensais, et je pense encore d'ailleurs, 25 ans ou 30 ans plus tard, je pense encore que ma seule qualité ou mon seul savoir-faire inné, c'est de le commercial. Donc je suis rentré dans une boîte qui créait un département de commerciaux, et on était 7. J'en suis parti 1, 2, 3, 4, top, je ne sais plus, 5 ans plus tard. Alors on était 700, donc j'ai passé mon temps à recruter du monde, à animer des gens, à apprendre mon métier. On est parti en province, on a rencontré des gens sympas en province. Non, ça s'est bien passé.
C'était Lille ?
C'était à Lille, ça, oui. C'était à Lille, avec des gens sympas, parce que les gens du Nord sont des gens sympas. Non, ça s'est bien passé, ça. C'était un bon souvenir. Et là, j'ai eu une fille en arrivant et une fille en partant. Voilà.
T'as des enfants ?
Ben oui, j'ai fait des enfants.
Oui. Donc vous êtes revenu en 78 ici ?
78, on est rentré à Paris. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ben oui, je suis rentré dans la même... Enfin, j'étais promu dans cette boîte-là, directeur Paris, donc... J'ai repris un poste à Paris, puis ça commençait à m'énerver un peu. C'était un peu la même chose, un peu le train-train, un peu l'administration, même si c'était une boîte privée, mais on était donc 700 et ça devenait un peu la foire d'employés. Donc j'en suis parti parce que l'ancien directeur commercial de cette société m'a demandé de le rejoindre. Il venait de monter une structure en France. Je l'ai rejoint, on a essayé de monter une distribution de machines à dictées, ça s'appelait à l'époque. Là, j'ai couru toute la France à essayer de promouvoir ces produits, et puis ça s'est pas trop mal passé. Sauf que, comme c'était une société financée par des Hollandais, je crois, et que ces gens-là ont décidé un beau jour de fermer le département français, ou, non, de fermer l'export. Je me suis retrouvé à la recherche d'un emploi, et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois, ça fait donc, ça fait 23 ans. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois ce qu'on appelait à l'époque un micro-ordinateur, et ça fait maintenant 23 ans que je fais dans la micro-informatique.
Et vous faites quoi exactement ?
Alors aujourd'hui, j'ai fait plein de choses. Alors on va parler d'abord de ce que j'ai fait. La micro-informatique, je suis rentré chez un constructeur français de micro-ordinateurs qui avait inventé, comme on fait toujours en France, qui avait inventé son propre système d'exploitation, sa propre technologie, et ce qui n'aurait jamais eu aucune chance de se développer. Mais bon, bref, à l'époque, on y croyait. Et là, j'ai fait de l'export. Et l'export, c'était sympa parce que partir 3 jours au Portugal, en Italie, en Espagne, partir 3 jours à l'étranger pour aller rencontrer des gens qui ont une autre mentalité, une autre façon de voir les choses, qui vous accueillent de façon sympathique parce que vous êtes le fournisseur, qui vous emmène visiter, qui vous font atterrir sur des aérodromes. Je me souviendrai toujours, un jour on a atterri à Milan dans un brouillard impossible, dans un Fokker où on était 12. J'ai cru qu'on n'allait jamais se poser, puis d'ailleurs on n'en est pas reparti parce qu'il y avait toujours autant de brouillard au-dessus de Milan. On est rentré en voiture de Milan à Marseille, et puis à Marseille on a pris le train, et puis c'était l'époque héroïque où voyager, ça prenait du temps. Et puis, donc, après j'ai quitté cette société pour rentrer chez un éditeur de logiciels. Et là, je me suis abusé à monter un réseau de distribution sur le territoire national. Et donc, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres en voiture pour aller voir les gens qui étaient nos distributeurs sur Nantes, sur Bordeaux, sur Marseille, sur Lyon, sur Lille, bien sûr, sur Strasbourg. C'était pas triste parce que Paris-Strasbourg... il y a 20 et quelques années, un peu moins, il n'y avait pas d'autoroute, donc c'était bien, quoi. Même encore aujourd'hui, c'est pénible d'aller à Strasbourg, mais à l'époque, c'était bien. Une nuit, je suis tombé 7 fois en panne d'essence en m'arrêtant à chaque station, à chaque bar, à chaque gendarmerie pour demander 5 litres, 3 litres, 2 litres. 7 fois en panne d'essence, mon épouse était folle et moi, je ne vous en parle pas. Donc, ça fait souvenir. Et puis après, cet éditeur a développé une distribution à l'export. Je suis reparti à l'export, au Maroc, en Tunisie, en Espagne. Bien que les plans comptables, puisqu'on vendait des logiciels de gestion, les plans comptables ne soient pas forcément les mêmes dans ces pays-là. Ça se passait bien. On avait un concurrent à l'époque qui commençait à exister, qui aujourd'hui est le numéro un mondial. L'ennui, c'est que c'est pas nous qui sommes devenus numéro un mondial. Et là, j'ai rencontré des gens riches parce que j'ai rencontré des gens qui avaient envie de construire, qui se battaient, qui comptaient pas leurs heures, qui se défonçaient, qui mettaient le meilleur d'eux-mêmes. Et c'était sympa. C'est sympa parce que on allait bosser avec plaisir, on allait bosser avec des gens qu'on aimait beaucoup, avec des gens que l'on voyait vivre au quotidien et où on était tous les membres d'une même équipe, quoi. Et puis, bien évidemment, les choses avançant, le numéro un mondial est devenu le numéro un mondial, il a racheté tous ses concurrents, y compris ma société, auquel cas j'ai décidé de monter ma propre société. D'ailleurs, ce que je viens de dire n'est pas tout à fait chronologique, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave du tout. Mais j'ai monté une première société, ça a tenu 10 ans, jusqu'à ce qu'effectivement le concurrent rachète mon fournisseur. 10 ans pendant lesquels je me suis battu à essayer de gérer du personnel, à essayer de faire comprendre à des gens qui étaient sous une économie... comment dirais-je, qui était sous une mentalité un peu moins disponible que les précédents, qu'il fallait qu'ils bossent, qu'il fallait qu'ils comptent pas leurs heures, qu'il fallait qu'ils se défoncent un peu. Ça, c'était plus dur. Puis j'en ai eu tellement marre qu'on a arrêté et après j'ai remonté ma propre société où aujourd'hui je travaille avec très peu de personnel puisqu'il y a moi ou moi. Et ben, au moins je ne m'engueule pas avec moi-même et puis je me motive tout seul et puis ça se passe plutôt bien. Voilà.
Travailler avec d'autres sociétés ?
Ben, je travaille forcément en consultant, puisque maintenant j'ai acquis un âge et une expérience certaine, enfin tout au moins un âge certain, je travaille pour d'autres sociétés qui me font la grâce ou qui me donnent le crédit d'être leur interlocuteur. Donc je vais voir des clients potentiels, je vais voir des gens qui ont des besoins et je leur fais découvrir ou analyser leurs besoins. Et une fois que ces besoins sont exprimés, je me retourne vers les sociétés qui auraient ou qui ont eu la solution ou la solution la plus approchante aux besoins des clients pour leur dire voilà, mon expérience fait que par rapport à ce que vous cherchez, voilà ce que je vous propose et puis voilà. Et puis ça se passe bien parce que je suis libre, parce que je fais ce que je veux, parce que je travaille avec qui je veux, je travaille pas avec ceux qui m'emmerdent et je travaille avec ceux que j'aime bien et je gagne ma vie et tout va bien.
Et vous préférez peut-être maintenant que...
Non, parce que c'était... Non. Il y a eu des expériences enrichissantes. Je serais pas là aujourd'hui si j'étais pas passé par l'étape je manage du personnel, je construis quelque chose, je me développe, j'embauche, je débauche, je recrute, je découvre, j'aide, je forme. Il y a eu des expériences intéressantes de formation, de repêchage de gens qui étaient en galère. Je me souviendrai toujours, on était dans un petit bureau de 60 mètres carrés dans le 92, et un soir on voit arriver une fille complètement évaporée qui nous dit « J'ai faim, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de travailler, embauchez-moi, vous allez voir, je vais tout casser ». Une fille qui était complètement marginale apparemment, et on l'a embauchée, et cette fille m'a toujours étonné parce que elle avait beau être complètement marginale, complètement starbée, on lui a donné un poste de prospectrice, c'est-à-dire qu'on lui a donné un fichier et on lui a demandé d'appeler des clients pour leur proposer nos services. Et cette fille, elle bossait du matin 9h au soir 17h. Elle n'échangeait pas un seul mot avec les 9 autres personnes qu'on était. Elle ne mangeait pas avec nous. Je ne sais pas si elle respirait d'ailleurs, mais bon. Elle s'asseyait devant son téléphone et puis elle faisait son boulot. Et je me souviendrai toujours que le plus gros client qu'on ait fait en 2 ans, elle nous l'a trouvé un vendredi 13 juillet à 17h, alors que la moitié, si ce n'est les 3/4, si ce n'est les 4/5 de la France, était déjà la tête dans les étoiles. À 17h, elle continuait à téléphoner. Et puis un beau jour, bon, ça s'est mal terminé pour elle parce qu'elle était restée dans son trip de folle dingue. Donc elle n'est jamais revenue au bureau, mais ça nous a permis de rencontrer des gens un peu particuliers. J'ai fait ce que je croyais, je veux dire que j'ai appris à des gens à bosser, des gens qui m'en sont encore gré aujourd'hui, j'ai permis à des gens de sortir de la merde, mais le pire, c'est pas d'apprendre à des gens de sortir de la merde, c'est que la nature humaine est ainsi faite que ceux à qui vous donnez de temps en temps une bouée s'imaginent qu'ils sont sur un paquebot et qui vont traverser l'Atlantique. Donc des fois, ils oublient que dans une bouée, pour traverser l'Atlantique, c'est pas facile. Donc je serais pas tout seul aujourd'hui si j'étais pas passé par la case « je m'occupe de gens ». Et je regrette pas, mais c'est vrai que depuis 80, depuis les années où on explique aux gens que la société va les prendre en charge et que tout va bien se passer, c'est plus difficile de motiver des gens et de leur apprendre à pas compter leurs heures ou leur énergie alors que tout le monde essaye de tirer la couverture à soi en faisant le moins possible, quoi.